à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. La canicule continue de gagner du terrain en France. Cette nuit a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays depuis le début des mesures en 1947, selon Météo France. La canicule a provoqué 40 morts par noyade depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes, selon le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU accuse Israël de cibler des enfants palestiniens dans la bande de Gaza et dénonce un génocide en cours. Nous l'avons évoqué dans les titres, la canicule continue de gagner du terrain en France. Plus de 90% de la population est désormais concernée par une vigilance orange ou rouge, tandis que plusieurs records de température ont déjà été battus. Cette vague de chaleur exceptionnelle met à rude épreuve les organismes, les infrastructures et les services publics. Les détails avec Nadia Bencher.
La France étouffe sous une chaleur historique. La nuit dernière a été la plus chaude jamais enregistrée dans le pays depuis le début des relevés en 1947. Selon Météo France, la température minimale moyenne observée à l'échelle nationale a atteint 21,6 degrés, dépassant le précédent record établi en juillet 2019. Ce mardi, 54 départements sont placés en vigilance rouge canicule et 35 autres en vigilance orange. Plus de 9 Français sur 10 sont concernés par cet épisode exceptionnel. Après enregistré lundi à Bordeaux, Angers ou encore Saintes, les températures pourraient atteindre jusqu'à 44 degrés dans le sud-ouest. À l'échelle nationale, la température moyenne pourrait également battre un nouveau record historique dans les prochaines heures. Les conséquences de cette chaleur extrême se multiplient. La centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn et Garonne a été mise à l'arrêt en raison de la hausse de la température des eaux de la Garonne utilisée pour son refroidissement. Les services de santé restent particulièrement mobilisés. Les urgentistes redoutent une aggravation de l'état des personnes les plus fragiles dans les prochains jours, notamment chez les personnes souffrant de pathologies cardiaques, rénales ou de diabète. Cette canicule a déjà fait plusieurs victimes. Après le décès de 3 personnes âgées en Gironde dimanche, 2 jeunes enfants ont été retrouvés morts lundi dans une voiture à Carpentras dans le Vaucluse. La vague de chaleur perturbe également la vie quotidienne. Plus de 1300 écoles et collèges ont dû fermer leurs portes ou adapter leur fonctionnement, tandis que certaines épreuves du baccalauréat ont été reportées. Selon Météo France, cet épisode présente une intensité comparable à celle de la canicule de 2003 et pourrait encore se prolonger plusieurs jours.
Et la canicule a provoqué 40 morts par noyade depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes, selon le Premier ministre Sébastien Lecornu. Un jeune footballeur de Ligue 2 a été extrait du Rhône en état d'urgence absolue hier, après s'être noyé en fin de journée dans une zone de baignade interdite près de Lyon. Cette nouvelle canicule impose notamment la question de l'isolation des logements et met en lumière les inégalités sociales. L'invité de Pluriel ce soir à 19h sera le président du département le plus pauvre de France métropolitaine, le président de la Seine-Saint-Denis, où plus d'un habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté, Stéphane Troussel.
Sur la mauvaise isolation des logements, tout le retard qui a été accumulé dans notre pays sur le plan massif de rénovation thermique des logements sociaux ou des copropriétés dégradées. Le président de la République avait promis un plan ambitieux sur ces questions-là. Ce que je constate, c'est que les aides en direction des collectivités locales ou des bailleurs ou des propriétaires modestes ne cessent de se réduire. Donc ça, c'est une. On repousse sans cesse dans notre pays la nécessité d'atténuer et d'adapter. Et donc, à force de repousser sans cesse, eh bien, on est confronté à ce type d'épisode sans en être suffisamment préparé.
Et pour les personnes les plus précaires, est-ce que vous, en tant que président de la Seine-Saint-Denis, vous avez des prérogatives ?
Les prérogatives que nous avons, c'est dans le cadre de nos aides sociales pour soutenir les gens quand ils sont en difficulté et toutes les aides légales que un département est amené à poursuivre. Et d'ailleurs, en dépit de ces épisodes climatiques extrêmes, l'ensemble de nos services sociaux s'adaptent pour pouvoir continuer, bien évidemment, d'accueillir les gens alors même que parfois il y a des réductions d'activité, soit liées aux locaux, soit liées à l'indisponibilité aussi de nos propres agents quand, par exemple, les établissements scolaires ne fonctionnent pas. Et c'est en cela que je vous dis, finalement, on s'est aussi organisé un peu comme on l'a été pendant le Covid pour maintenir de l'activité et pouvoir être toujours disponible pour les gens les plus vulnérables.
Mais là, on l'entend, hein, vous parlez de continuité et non pas de renforcement pendant cette période très sensible pour les personnes les plus pauvres financièrement.
Le département, c'est pas la collectivité la plus organisée en matière de proximité. Ce sont souvent les communes qui ont la connaissance la plus fine des publics les plus en difficulté. Et donc les communes, aux côtés du département, aux côtés des services de l'État, activent ces dispositifs, y compris les systèmes de rappel téléphonique. Le département, je vous ai dit, s'est adressé aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap à travers des courriers, mais on va réactiver notre plateforme d'appel pour justement contacter individuellement les gens. Je sais que les communes font la même chose avec leur fichier canicule, mais qui concerne là encore plutôt les personnes âgées. Et puis, il y a tous les dispositifs, notamment de maraude, pour les personnes sans-abri ou les personnes les plus en difficulté.
Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Comment les villes donc s'adaptent à Crohn dans l'Essonne? Le maire Michael Damiati appelle à penser au-delà de l'urgence. Végétalisation des cours d'école, lutte contre les îlots de chaleur. Mais pour les communes, hein, ces transformations ont un coût important dans un contexte budgétaire déjà contraint. Écoutez Michael Damiati, le maire de Crohn.
C'est vrai, cette question doit se prendre sur le long terme. Là, pour le moment, on gère une crise immédiate, mais il faut pouvoir se projeter. Alors à Crohn, on a la chance d'avoir de nombreux espaces verts, une rivière qui passe. Mais néanmoins, cette réflexion, on doit également la mener. Je pense notamment les cours d'école qui méritent d'être végétalisés, de repenser aussi les éléments qui pourraient être débitumés pour en faire des espaces moins énergivores et qui captent moins la chaleur. Donc cette réflexion, il faut qu'on la mène. Néanmoins, on ne peut pas la mener seule, parce que vous imaginez bien que tous ces travaux nécessitent des financements importants et que là aussi, on est face à une équation difficile à résoudre avec des besoins qui augmentent et une nécessité d'adapter en effet la ville à ces crises climatiques, que ce soit les inondations parfois en hiver ou la canicule en été, et aussi les restrictions budgétaires que nous subissons. On se trouve un petit peu coincé entre ces deux injonctions et il est de plus en plus difficile de trouver des solutions. C'est pourquoi on a besoin réellement des pouvoirs publics pour nous aider dans ce changement, dans ces adaptations à prévoir pour les années futures.
Michael Damiati, maire de Crohn dans l'Essonne. L'ONU alerte sur le dérèglement climatique. Le monde doit agir avec beaucoup plus d'urgence pour limiter le réchauffement climatique, a déclaré le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui pointe les énergies fossiles comme étant à l'origine destructrice des crises énergétiques et climatiques. Il a également appelé les patrons des grandes entreprises d'intelligence artificielle à dire toute la vérité sur le coût climatique de leurs centres de données, les encourageant à révéler leur empreinte et à s'engager à les alimenter en énergie renouvelable. Dans l'actualité, au Moyen-Orient maintenant, au Liban, des tirs israéliens ont fait un mort et deux blessés aujourd'hui dans le sud du pays, malgré une accalmie qui dure depuis samedi soir, selon un média d'État libanais. Téhéran a répété aujourd'hui vouloir garder le contrôle sur les détroits d'Ormuz, tandis que s'est achevé le round de négociations avec les Américains, débuté ce week-end en Suisse, pour tenter de mettre fin à la guerre. Et au moins 36 navires de matières premières ont franchi le détroit hier, un trafic maritime record depuis le début de la guerre. On reste au Moyen-Orient. Une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU accuse Israël de cibler les enfants palestiniens dans la bande de Gaza et dénonce, je cite, un génocide en cours. Dans l'actualité, en France, le gouvernement a prononcé de premières sanctions contre une magistrate et deux gendarmes du Gers après la publication des conclusions d'un rapport déclenché par la mort de la jeune Liana qui a fait état de nombreux dysfonctionnements. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, est revenu sur ses conclusions chez nos confrères de France Info ce matin.
La justice, elle n'a pas su protéger ces petites filles. Quand je dis la justice, c'est la chaîne judiciaire, les services enquêteurs de la gendarmerie en l'occurrence, les magistrats. On dit souvent que la justice est trop lente, et là il y a eu une sorte de sommeil de l'enquête. C'est ce que démontre ce rapport.
9 mois.
Exactement. Au début, ça part très bien. Au début, le parquet de Toulouse, les gendarmes de Haute-Garonne font très bien leur travail. La maman est bien reçue, la gamine est dans une salle Mélanie que nous avons créée, que j'ai créée au ministère de l'Intérieur, spéciale pour entendre l'enfant pendant plusieurs heures. Le psy est dépêché comme expert pour montrer que cet enfant, évidemment, sa parole est parfaitement crédible. Il y a des experts médicaux qui constatent les liaisons anales, une plainte qui est déposée pour plus d'une cinquantaine de viols. Donc tout commence bien à Toulouse, très rapidement, très bien fait. Et vraiment, c'est exactement ce que nous demandons de faire. Et puis ensuite, par une succession de défaillances graves, individuelles et incompréhensibles, c'est ce que dit parfois le rapport, chez les gendarmes comme chez les magistrats, en effet, nous n'avons pas su protéger cette petite fille. Il est écrit dans ce rapport, qui a été rendu public, que tous les citoyens peuvent lire, qu'il y a eu des défaillances graves du côté des services enquêteurs de la gendarmerie nationale, et le ministre de l'Intérieur a pris des sanctions, et du côté du substitut en charge des mineurs du parquet d'Auch. Il y a plusieurs défaillances qui sont évoquées. La lenteur avec laquelle on a saisi un service enquêteur, hein, un mois et demi, grosso modo. Pendant un mois et demi, c'est-à-dire que le dossier était signalé comme urgent, dans une pochette rouge, et il n'y avait pas de gendarme saisi pour enquêter. Puis l'envoi dans un mauvais service de gendarmerie. Il a été renvoyé, ce dossier, à Toulouse, alors que Toulouse venait de l'envoyer à Auch. On a encore perdu du temps. On n'a pas suffisamment dirigé l'enquête. Hein. C'est quoi un procureur de la République ? C'est quelqu'un qui dirige l'enquête, qui dirige les policiers et les gendarmes, qui dirige la police judiciaire pour dire vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. Ouais. Et manifestement, cette enquête n'a pas été suffisamment dirigée, dit l'inspection, parce que pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu d'acte d'enquête dans cette affaire. Alors qu'il y avait une cinquantaine de viols dénoncés, alors qu'on connaissait le profil de M. Barella.
Le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Emmanuel Macron fait entrer ce soir au Panthéon l'historien Marc Bloch, soldat et résistant assassiné par la Gestapo, et Simone Vidal, son épouse et bras droit, lors d'une cérémonie d'hommage. Et enfin, un mot sur le Mondial 2026. La France, l'Argentine et la Norvège ont décroché hier leur billet pour les 16e de finale du Mondial, à nouveau porté par le talent et les buts de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland, tous auteurs d'un double. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.